comme ça sous projet, sous le grand parapluie de KDE, il y a K-Office, il y a les jeux aussi qui forment une petite équipe, et il y a KDE Edu, puisqu'on développe des logiciels quand même spécialisés qui sont tous orientés vers l'éducatif. Donc on forme une petite entité à nous tout seul. Alors il y a plus de 20 développeurs. Je vais vous montrer une démo en live. Donc voilà où sont les développeurs de KDE Edu. Donc la majorité sont en Europe, en Norvège, en Angleterre, en Allemagne, beaucoup, en France. Il y en a deux en Russie, un au Koweït. Et donc vous admirez notre globe là, qui est sous son mode le plus dépouillé au niveau cartographie, pour mieux visualiser les développeurs. Et on a plusieurs développeurs aussi aux États-Unis, ainsi qu'un au Brésil. Donc voilà, ce logiciel de globe terrestre s'appelle Marble, et c'est une nouveauté dans KDE 4.0. Et je vous en reparlerai plus tout à l'heure. Donc voilà un petit peu tous les développeurs de KDE. KDE Edu. Donc c'est une équipe très hétérogène, pas mal de gens assez différents, mais très dynamique. Donc on travaille en commun et le but c'est de développer des logiciels éducatifs. Donc on forme un sous-projet du projet KDE. Et on a notre base, on s'appelle d'ailleurs entre nous la E-Team, la E-Team, Edu-Team, et on se donne rendez-vous sur le canal KDE Edu du réseau Freenode pour discuter en live quand les réseaux horaires le permettent. Donc, pour la première fois au début de décembre 2007, on s'est rencontrés tous en vrai. Et c'était vraiment la première fois qu'une partie de l'équipe KDE Edu, là on était 14, s'est rencontrée à Paris dans les locaux gracieusement prêtés par Mandriva. Donc comme vous voyez, il y a des gens assez différents. Et donc là on a un Brésilien, un Américain, les deux Russes. Donc c'est Vladimir et sa femme qui développent un programme qui va être intégré dans le 4.1, un simulateur d'expérience physique qui est déjà superbement abouti, qui va s'appeler STEP. Et ouais, c'est très très bien fait. Et donc c'est vraiment très bien d'avoir fait une réunion comme ça, parce que par exemple Vladimir, chez lui il n'a pas de connexion internet, donc il n'y a que de l'université qui peut se connecter, donc ça lui est difficile de participer sur IRC à des discussions. Dans la liste de diffusion il ne participe pas trop non plus, donc c'est typiquement un développeur qui était assez isolé. Donc d'avoir fait un meeting comme ça, d'ailleurs, au début, il était assez timide parce que, c'est vrai, déjà, c'était aussi un petit peu un choc culturel. Il a fallu un visa pour venir, donc ouais, c'est déjà assez compliqué. Mais ensuite, dès le samedi, en fin d'après-midi, il nous a présenté son logiciel. Il était suffisamment à l'aise. Et une réunion comme ça, ça remotive vraiment quelqu'un qui travaille un petit peu seul. Ça remotive vraiment. Donc, il y avait pas mal de développeurs, plus de la moitié n'avaient jamais rencontré d'autres personnes de KDE en vrai. Donc c'était très intéressant pour nous et très important. Donc le but c'est de donner des petits outils d'apprentissage à des étudiants, à des enfants, aux enseignants, aux parents et aussi à des adultes qui veulent être autodidactes et apprendre. D'attirer les développeurs vers l'éducatif, ça marche pas mal puisque l'éducatif prend quand même une ampleur de plus en plus importante dans les logiciels libres. Et on développe des outils en commun, on essaye d'avoir le plus possible de librairies communes pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe qui s'intègre dans le travail de la communauté KDE. Alors, l'éducatif, bien sûr, depuis, je dirais, peut-être 2 ans, a pris vraiment, commence à avoir un boom. Et avec l'avènement des distributions éducatives, comme Ubuntu et Skolé Linux, qui est aussi appelé Debian Edu. Au départ, c'était un projet Debian Edu qui a commencé, je pense, dans la fin des années 90, et qui n'a jamais pris vraiment d'ampleur, mais ils avaient déjà, en fait, le gars qui le faisait, il y avait une petite équipe, mais était finalement un visionnaire de ce qui se passe maintenant. Et je pense qu'il avait senti que les écoles, les gouvernements allaient se tourner vers les logiciels libres. Donc on n'a pas de chiffres du tout de l'emploi, même Scholae Linux n'ont pas vraiment de chiffres de l'utilisation de leur distribution dans les écoles. Les seuls chiffres qu'on connaît vraiment, c'est l'expérience qui a eu lieu aux îles Canaries, qui s'appelle Meduxa. Et donc aux îles Canaries, ils veulent mettre toutes les écoles des îles Canaries, même si les îles Canaries c'est pas très grand, ça représente quand même 1100 écoles qui d'ici l'an prochain vont être toutes équipées en KDE et KDE Edu. Donc voilà. Ils ont déjà mis des ordinateurs, ils ont fait une distribution spécifique qu'ils ont basée sur Ubuntu. Et il y a de plus en plus de gouvernements qui regardent les logiciels libres comme une solution viable et plus intéressante que les logiciels propriétaires parce que plus configurable. Alors maintenant, le boom de ces derniers mois, c'est les petits ordinateurs, ce qu'on appelle des sub-notebooks. Donc je ne mentionnerai pas l'OLPC puisque l'OLPC, il n'y a pas de travail qui se fait à partir de Qt ou de KDE pour l'instant. C'est une interface spécifique et pour l'instant on n'a rien fait. Moi j'ai juste émulé l'OLPC avec une petite application Qt, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. Donc je ne mentionnerai pas. Par contre, Intel, pour un petit peu concurrencer l'OLPC, puis aussi parce qu'ils ont vu que ça allait être le marché porteur, donc Intel a fabriqué ce petit ordinateur qui s'appelle le Classmate PC. Et il est livré, il peut être acheté par des gouvernements, des pays émergents. Donc le Nigeria, par exemple, en a commandé plusieurs milliers pour équiper les écoles. Donc ce petit ordinateur a été conçu pour être robuste, transportable facilement. C'est toute une technologie qu'Intel a développée récemment, avec une mémoire flash et pas de disque dur, avec une batterie qui dure quand même assez longtemps. Bon, c'est sûr que... Pour un adulte, par exemple, les touches sont assez petites. Donc, voilà. Donc, ce produit-là n'est pas en vente, vous ne pouvez pas l'acheter comme ça. Mais il y a le IIPC qui est arrivé en France, puisqu'il y avait je ne sais plus qui en a acheté un. Donc qui est en fait au niveau du hardware le même matériel que basé sur les mêmes composants que celui-ci et qui sera à disposition du grand public. Et qui a aussi à peu près, bon, il a un look plus d'un ordinateur portable, mais il a aussi cette taille-là. Donc, ces ordinateurs-là, bon, celui-là est fait pour les pays émergents et l'IPC est fait pour des pays comme les nôtres. Mais la première cible de vente de ces ordinateurs sont les étudiants. Donc, c'est livré avec les logiciels éducatifs qui avaient été dû. Sur les IPC, il y a plusieurs, sur la version Xandros. Je ne sais pas s'il y a d'autres distributions ou s'il n'y a que Xandros.
Par défaut, ça arrive à être. Par défaut, c'est avec l'installation de Xandros.
Xandros, oui. Donc, il y a des logiciels de KDE et du. Donc, voilà une application. Et ensuite, il y aura probablement KOffice aussi, parce que le gros problème sur ces machines-là, c'est que quand vous lancez OpenOffice, ça rame. Donc, j'espère que KOffice va vraiment. Vite être prêt pour activer sa machine. Donc voilà le IIPC qui ressemble plus à un vrai ordinateur par rapport à celui-là, mais qui est quand même tout petit aussi, vous voyez, par rapport à la vie. Donc celui-là, il va être en vente, je ne sais pas combien, peut-être 300 euros, je pense, quelque chose comme ça. Donc KDE est dû, donc il y a beaucoup de passages de développeurs. L'année dernière, j'ai compté qu'il y avait à peu près 12 développeurs qui ont quitté et 14 qui sont arrivés en un an. Donc ça bouge beaucoup. Mais il y a un intérêt de... Ça attire pas mal les développeurs parce que d'abord, c'est porteur maintenant avec le marché des petits ordinateurs. Enfin, on voit plus l'intérêt de faire de l'éducatif. Et les programmes sont souvent petits et assez faciles. C'est facile de mettre le nez dedans. Donc des débutants dans KDE... vont souvent commencer par essayer de regarder un petit peu s'il y a des petites tâches à faire dans les programmes éducatifs. Ces développeurs codent aussi dans KDE, parfois ils s'en vont d'ailleurs dans KDE, parfois ils restent et font les deux. Et en particulier pour le développement de KDE 4, les programmes de KDE Edu, étant petits, ont été portés très rapidement. Et donc, sous l'impact de Laurent, tu m'as un petit peu boosté parce que j'étais pas très chaude pour commencer le port, mais finalement, il m'a dit si, il faut y aller. Et ensuite, ça a été assez rapide parce que le port lui-même a été assez rapidement fait, le port de vers QT4. Et ensuite, le développement s'est fait aussi, les développeurs étaient très motivés. Et donc, on a testé pas mal de bibliothèques de base, comme Phonon, par exemple. On a beaucoup travaillé avec le développeur de Phonon, puisqu'on a beaucoup d'applications qui utilisent le son. Donc c'est en fait... c'est la partie logicielle, je veux dire, en dehors des piliers, c'est la partie logicielle qui a probablement été la plus développée dans KDE, en tant que module, je pense. Les jeux ont été relookés, mais après, au niveau du code, ils sont pas mal buggés, d'après ce que j'ai...
Buggés, peut-être pas, mais je pense que si le code était moche avant, il est moche après.
Ouais. Donc nous, ça fait un an que vraiment on travaille à tester les nouvelles fonctionnalités, les piliers de KDE 4. En particulier, on a tout passé sous le vectoriel, donc le QSVG renderer n'a pas vraiment de problème. Mais on a travaillé vraiment de façon très sérieuse avec le développeur de Phonon, puisque nos applications ont besoin du son. Le Calettre, par exemple, ne fonctionne qu'avec le son. C'est une application pour laquelle on entend la voyelle, l'enfant doit la retaper ou l'adulte. Mais s'il n'y a pas de son, cette application n'a plus d'objet. Donc c'était important. On utilise aussi la technologie que Kevin avait mentionnée hier, DXS, qui s'appelait aussi Can You Stuff. Donc ça, c'est une technologie dans un programme, il l'a expliqué un petit peu hier. Finalement, avec deux clics de souris, vous pouvez ajouter des données additionnelles dans votre programme et elles seront tout de suite disponibles dans le programme. Donc pour les applications éducatives, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas livrer les applications avec des données dans toutes les langues disponibles immédiatement. Et une application éducative, ça a son sens qu'avec des données, pratiquement. S'il n'y a pas de données, dans Calettre, s'il n'y a pas de son, ça ne sert plus à rien. Dans Castars, s'il n'y a pas des fichiers qui vont vous permettre d'aller chercher des données astronomiques. Cette technologie, le développeur avait bien réécrit les classes, mais ça ne fonctionnait pas du tout. La couche qui devait fonctionner ne fonctionnait pas du tout. L'API était bien conçue, mais on ne pouvait rien en faire. Donc il a fallu débugger tout ça. Et finalement, c'est un développeur de KDE Edu qui en est devenu le mainteneur parce que pour nous, c'est absolument vital que ça fonctionne. Et il a tellement mis le nez dedans que finalement...
Je pense à un truc, effectivement, je t'ai déjà posé la question hier quand Kevin en a parlé. Mais, ok, l'appli va, par l'intermédiaire de cette librairie de plus bas niveau, va chercher les données nouvelles, mais elle les installe où ? Parce que si c'est un simple utilisateur, il ne va pas pouvoir les installer au niveau système.
On les installe localement.
Dans son point KDE.
Oui. D'accord. Dans son point KDE ou dans son point Marvel, pour Marvel. Oui, non, il n'y a pas encore. Alors, je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Ça, c'est une facette du développement du KDE Edu qu'on n'a pas encore abordé du tout. C'est le comportement de nos applications dans un réseau, typiquement l'utilisation dans une classe avec la gestion justement de plusieurs postes et...
Il va avoir besoin que chaque utilisateur...
Ouais. C'est quelque chose qu'on va je note après. Donc, on aura le globe terrestre dans KDE 4, là, que je vous ai montré. Donc ce globe terrestre, depuis hier, utilise c'est juste un essai, mais les données d'OpenStreetMap. Donc, il pourra avoir beaucoup, beaucoup d'utilisation, ce globe, mais il pourra vraiment concurrencer Google Earth grâce à ces données libres du projet OpenStreetMap. Donc on a aussi un nouveau programme, un calculateur basé sur MATLM. L'utilisateur ne voit pas MATLM, il n'a pas besoin de savoir que c'est basé sur MATLM, ça c'est en dessous, mais qui trace des courbes 2D et des courbes 3D. Donc voilà. CavOcTrain, qui était un des tout premiers programmes KDE EDU, qui existe depuis 1999, est devenu, après un nouveau nom, a eu un nouveau MATLAB qui est très dynamique. Et il s'est vraiment relooké. Et c'est un programme qui plaît beaucoup parce que toute personne qui veut apprendre une nouvelle langue ou enfin, qui veut apprendre quelque chose avec deux entrées se servira de ce programme pour faire des flashcards, des trucs comme ça. La nouveauté aussi, et qui a fait exploser les serveurs là, parce que ça a été repris sur plusieurs sites de nouvelles, c'est le port vers Windows et Mac OS. Quoi qu'on puisse en penser par rapport à Windows et Mac OS qui sont propriétaires, pour l'éducatif, il n'y a rien sur Windows, il n'y a pas de programme GPL du tout en éducatif. Enfin, puis même il y a peu de programmes déjà éducatifs, mais des programmes GPL, il n'y en a pas du tout. Donc c'est sûr que pour nous, il vaut mieux ça que rien du tout, je pense, pour... Tout comme les gens maintenant utilisent Firefox sous Windows. C'est sûr que ça va faire un gros boom dans nos utilisateurs. Ça va vraiment élargir notre base d'utilisateurs. Donc les programmes KDE EDU ont aussi servi, étant donné qu'ils sont petits et qu'ils étaient assez aboutis. Ils ont aussi servi de test pour les développeurs qui ont porté vers Windows. Et ils sont pratiquement tous fonctionnels. Voilà. Alors ça, c'est le pour faire des courbes en 3D. Je vais vous montrer après les améliorations. Si une des améliorations assez spectaculaires qu'on a, un développeur a codé la visualisation des molécules dans Calcium en 3D. Donc le programme a cherché, téléchargé un fichier et ensuite ça affiche la molécule. Je vais vous montrer. En live et avec des zooms, la rotation autour de la molécule, autour de l'atome. Enfin, ça c'était fait en OpenGL. Donc voilà. C'est le Calcium, c'est le programme de chimie qui affiche la table périodique des éléments et qui donne des tas d'informations sur les éléments. Donc les améliorations qu'on prévoit. Au niveau du téléchargement des données, ça fonctionne très bien. On a déjà des données qu'on peut aller télécharger. Soit dans Marble, il y aura les cartes OpenStreetMap. Dans Calcium, il y a justement avoir plus de molécules, de fichiers de molécules. Parce qu'au total, ça fait beaucoup de mégas. On ne peut pas toutes les distribuer avec le programme. Donc. Mais ensuite, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est que l'utilisateur lui-même pourra partager ses fichiers. Par exemple, on a un logiciel qui fait de la programmation logo. Enfin, c'est basé sur logo, parce que ce n'est pas du vrai logo. La petite tortue, là, pour apprendre à programmer aux enfants, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc ça fait des programmes qui sont en fichier texte. Et ce serait sympathique qu'un utilisateur qui fait un programme, un enseignant, puisse mettre son programme sur le serveur et qu'ensuite les autres enseignants puissent s'en servir. Donc on essaye d'avoir... Je ne sais pas si ce sera possible dans 4.1, j'ai l'impression que ça va être que dans 4.2, de pouvoir envoyer aussi, ça pas simplement télécharger, mais envoyer. Donc on essaye aussi de partager les données le plus possible, entre K-Anagram et K-Hongman par exemple, qui sont deux petits jeux qui travaillent. K-Hongman c'est fait pour le jeu du pendu, donc il faut deviner un mot, et il y a aussi un indice, merci. C'est bon. on a un autre jeu qui mélange les mots. Il faut deviner le mot initial qu'à la gamme. Donc voilà, on peut utiliser les mêmes fichiers pour ces deux programmes. Alors à venir aussi dans KDE 4.1, on va commencer à faire des plasmoïdes. Donc les plasmoïdes, ce sont les petits widgets qu'on a sur le bureau. Et il y a déjà des idées qui ont été faites. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu. Alors. Ah, il faut que je relance tout là. Merci. Alors on va regarder. Ça c'est casse-pied. Donc ça c'est calcium. Donc quand on clique sur un élément, on a l'état de données sur l'élément. Et là, afficheur de molécules. Donc voilà le dialogue d'afficheur de molécules, chargé de molécules. Ça, ce sont les molécules, les fichiers qui sont livrés en standard avec le programme. Donc on peut prendre, je ne sais pas, l'éthanol. Voilà. Donc voilà la molécule, on peut la faire pivoter. On peut zoomer. Ah, je ne suis pas très douée avec le... Voilà. Avec les souris, on peut zoomer. On peut faire différents affichages, points et bâtons, bâtons seulement, symboles, enfin bon. Voilà. Donc, des fichiers comme ça, il y a beaucoup de molécules qui ont été mises sous forme de ce fichier qui doit être un standard ouvert, parce qu'on n'utilise que des standards ouverts. CMM, je ne connais pas assez en chimie pour donner toutes les précisions, mais enfin, il y a énormément, je pense qu'il y a plus d'un millier de molécules qui sont comme ça, qu'on peut utiliser. Donc là, vous avez, ça n'a pas encore été traduit, hein, puisque ça a été rajouté après 4.0. Donc, download new molecules, et là ça ne fonctionne pas encore, il n'a pas totalement implémenté, mais là on pourra aller chercher des fichiers additionnels pour visualiser plus de molécules. Donc voilà, on n'a pas fait de zoom. Donc Marble, vous l'avez déjà vu. Pour l'instant, OpenStreetMap, je ne vais pas le charger parce que ça met longtemps. Il n'y a que Oxford qui a été fait en... Là, ça, c'était il y a 2 jours, c'est le début, mais enfin, ça fonctionne déjà. Donc, on peut faire différentes vues de la Terre. Voilà, avec... là, il y a mon fichier qui est resté dessus. Il faut que je la recharge, en fait. Enfin, après, on peut zoomer. Bon, là, c'est sûr que c'est... zoomer trop, ça n'a pas d'intérêt, puisque c'est pas une vue satellite ou... une vue de carte, mais avec des vues comme OpenStreetMap, plus on va zoomer, plus on va se rapprocher de la rue. On peut calculer les distances pour l'instant. Et donc, Marble a été développé pour être aussui un widget Qt Designer qu'on peut réutiliser très très facilement dans d'autres applications. Donc, par exemple, on peut imaginer que pour CASTARS, quand vous ouvrez CASTARS, le logiciel d'astronomie, la première chose que le logiciel vous demande, c'est d'entrer vos coordonnées, enfin, ou votre ville, pour pouvoir visualiser la portion du ciel que vous allez voir. Parce qu'en général, vous ne voulez pas voir le ciel que vous avez en Australie, mais ce que vous pouvez voir vous. Donc, on peut imaginer qu'on pourra faire cette visualisation, enfin, que l'utilisateur pourra rechercher sa ville sur le globe terrestre. Donc voilà, et je vais terminer peut-être avec le petit plasmoïde qui est aussi sorti hier, tout nouveau. Non, c'est pas ça. Alors, ajouter. Vous voyez qu'on commence à déjà avoir pas mal de petits plasmoïdes qui se développent. Comment le faire, lui ?
Un minute.
Donc ça, c'est K-Algebra, le calculateur qu'on a vu tout à l'heure. Donc il va commencer, c'est tout nouveau, hein, mais c'est pour vous montrer. On peut faire du calcul comme 2 cosinus x plus 3 sinus... non, pas sinus, cosinus... On va lui laisser que des cosinus. Voilà, ça affiche. Donc ça, c'est tout nouveau. Hein. Il a juste commencé, c'est pas encore, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que sont les plasmoïdes aussi et ce que pourra devenir. Au lieu d'avoir toute l'application, parfois on a besoin que d'une petite fonctionnalité rapide. Donc typiquement, quelqu'un qui fait des maths aura peut-être besoin d'avoir un petit calculateur à disposition.
Ils font plus rien.
Ouais. Voilà, mais au niveau des cartes flash, pour l'apprentissage d'une langue, par exemple, on peut imaginer qu'on aura un plasmoïde qui va afficher pendant quelques secondes le mot en français, et puis la carte, le plasmoïde va se retourner, comme je disais tout à l'heure. On va voir derrière, il y aura le mot traduit en anglais. Donc voilà, on peut imaginer des choses comme ça, la visée éducative. Donc voilà, si vous voulez contribuer à KDE Edu, bah, c'est très facile, parce que comme je disais, les programmes souvent sont assez simples, et donc il suffit de soit d'intégrer un programme existant. Un programme comme Marble, par exemple, a suscité en l'été 2007, a eu 3 Google Summer of Code, 3 étudiants qui ont travaillé dessus et enfin, qui avaient été acceptés. Donc voilà, c'est des programmes pour lesquels il est... En fait, Marble déjà forme une petite équipe finalement tout seul. Et on a aussi ouvert une page. On a une page wiki. Ça c'était Gradium. Ça c'est le simulateur physique. Ah voilà, ça c'était OpenStreetMap dans Marble. Il y avait juste Oxford. Bon, c'est encore pixelisé. Et quand on zoome, il y a encore des paliers parce que c'est vraiment, il l'a fait hier. Mais enfin, voilà ce que ça donnera. Alors, comment s'intégrer à l'équipe? Oui, on peut aider à s'intégrer dans un logiciel qui existe déjà, aider un développeur. Et on a mis dans un wiki, on a des petites tâches à faire. Par exemple, je disais qu'il y avait un dialogue de 4 touches pour apprendre à taper, qui est beaucoup trop grand, mais il remplit tout mon écran. Donc, il faut le remanier. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'un débutant peut faire. Il suffit de prendre Qt Designer, puis jouer avec les widgets, les déplacer, et puis voir comment on pourrait éventuellement demander l'avis d'un ergonome. Et puis, donc il y a des petites tâches comme ça qui sont affichées. Et tout le monde peut s'intégrer facilement dans le projet. Il suffit d'avoir quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, récemment, il y a la femme d'un développeur pour la sortie KDE 4 qui nous a fait une page web où elle a fait des captures d'écran des programmes avec un petit texte en anglais. Donc voilà, ça donne, c'est une présentation de tous nos programmes rapide. Ça fait bien sur le site web parce que les gens peuvent facilement voir de quoi il s'agit. Bon, ben voilà un exemple de tâche. Il y a beaucoup d'icônes à faire encore parce qu'il reste beaucoup d'icônes. On a toujours besoin de graphisme parce que les enfants, ils aiment bien, c'est vrai, au lieu d'avoir un programme tout gris, ils aiment bien qu'il y ait un petit peu de couleur. Donc voilà. Si vous avez des idées de nouveau. Ah, il faut y aller. Bon, mais je vais terminer de toute façon. Voilà.
Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Ah, c'est 6h la nuit.
Voilà.
Merci.